En novembre 2020, alors que nous entamons une seconde période de confinement, il est un acteur culturel que l'on pense particulièrement fragile, l'orchestre symphonique. Comment une superstructure avec sa centaine de musiciens peut-elle s'adapter aux changements de contexte que nous vivons? En utilisant les nouveaux médias et les technologies émergentes, en se frottant à la pop culture, en adoptant des formes nouvelles de concert, l'Orchestre National de Lille est devenu une référence en matière d'orchestre 4.0. C'est quoi l'innovation pour un orchestre? Bienvenue dans ce 8e épisode des Causeries de la Plaine. Je suis Laurent Tricard, directeur de l'innovation, et j'ai le plaisir d'accueillir pour cette causerie François Bou, directeur général de l'Orchestre National de Lille. Comment ça va François?
Bah bien, plutôt bien.
Plutôt bien, malgré le contexte que j'évoquais.
Bah, bien sûr, le contexte, il est là, mais vous savez, nous, on a décidé d'arrêter un peu de parler du contexte et puis de parler de ce qu'on fait. Donc, je suis heureux de parler de ce qu'on fait dans ce contexte.
Alors, je disais d'accueillir, mais c'est vous qui nous accueillez, puisque nous enregistrons ce podcast, cette causerie de la Pleine Image, dans vos bureaux, donc dans les locaux de l'Orchestre National de Lille, en plein cœur de Lille.
Avec plaisir.
Et j'évoquais le terme de superstructure. Est-ce qu'on peut replacer le cadre global? C'est quoi l'Orchestre National de Lille?
Alors, l'Orchestre National de Lille a été créé il y a maintenant 42-43 ans. C'est une centaine de musiciens avec un directeur musical, c'est-à-dire le chef d'orchestre permanent. Et c'est également une trentaine de collaborateurs en support et soutien de son activité, que ce soit la communication, l'administration, la régie, la direction artistique et la direction générale.
Alors effectivement, période de confinement, c'est pour un orchestre dont la vocation première, c'est de produire des concerts, et de se, en l'occurrence pour l'Orchestre National de Lille, c'est de produire des concerts in situ, mais aussi évidemment de se déplacer à travers le monde. On pense fin d'activité, on se dit c'est rideau.
Oui, bah, c'est pas franchement rideau, puisque pendant le confinement déjà, nous avions, grâce à notre studio numérique, un bon stock de concerts captés, que nous avons pu diffuser de nouveau pendant le premier confinement. Et dès le déconfinement, nous avons pu retrouver petit à petit une activité, notamment audiovisuelle, avec l'orchestre. Donc ça, c'était très important, notamment le Lille Piano Festival que nous avons donné de façon digitale, sans public, bien entendu. Et puis ensuite, nous avons été présents sur les réseaux par des captations régulières de concerts. En septembre, on a pu reprendre l'activité avec du public, et là, le public a répondu de façon extraordinaire. On avait 12 000 places à vendre jusque fin novembre, on en avait vendu plus de 11 000. Donc on avait une réponse tout à fait satisfaisante et encourageante du public, grâce notamment aux mesures strictes sanitaires que nous avions prises dans notre salle du Nouveau Siècle. Alors, deuxième confinement, arrêt des activités, arrêt de l'accueil du public, mais pas de l'activité des musiciens. Et ça, c'est la grande différence avec le premier confinement. Et grâce de nouveau à notre studio de captation de haute technologie, eh bien, nous pouvons être présents sur les réseaux et les réseaux de nos partenaires.
Alors effectivement, dans cette introduction, je disais Orchestre 4.0, je parlais de l'Orchestre National de Lille comme une référence. Alors en ce moment, l'actualité, c'est Audito 2.0. Ça, c'est un élément de réponse au contexte.
Oui, c'est notre deuxième salle, disons. Mais on souhaite que cette salle, de façon virtuelle, mais finalement le virtuel c'est du réel, hein, c'est pas de l'abstrait, que cette deuxième salle existe au même titre qu'existe la salle réelle au Nouveau Siècle.
Alors c'est quoi une deuxième salle précisément?
Alors une deuxième salle, c'est évidemment une façon d'habiller notre activité audiovisuelle et de captation. Ben, ça veut dire que face à l'arrêt de l'accueil du public, l'orchestre peut continuer ses activités sans public sur sa scène. Et vous savez que nous avons investi il y a 5 ans dans un studio audio et ensuite visuel qui nous rend très autonome, très professionnel et très, très autonome par rapport aux captations. Alors nous avons décidé de ne pas annuler nos concerts qui étaient prévus en novembre. Je pense que décembre sera la même chose. Nous n'annulons pas, en revanche, nous n'accueillons pas de public, mais nous les captons. Nous les captons et nous les diffusons sur notre chaîne YouTube, que nous avons intitulé l'Audito 2.0 pour donner le sentiment d'une sorte de normalité, c'est-à-dire on a deux salles, une physique et une numérique. Et en ce moment, on peut vous accueillir dans notre salle numérique.
La salle numérique, cette salle numérique, est-ce qu'elle existera plus tard, quand on sortira de ce second confinement?
Écoutez, je crois que la crise, il y a beaucoup de, évidemment, on le dit beaucoup, est un accélérateur en fait des tendances. Or, à côté du spectacle vivant en présentiel avec le public dans la salle, en complément de ce qui est effectivement notre cœur de mission et puis qui est indicible, la rencontre entre des artistes et un public, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et bien en complément de cette salle, nous avons la salle 2.0 qui nous permet d'être accessible dans le monde entier, en fait, hein, il n'y a pas de limitation, et puis qui nous permet aussi de gagner un nouveau public aussi, un public qui ne serait peut-être pas venu dans la salle réelle, mais qui va picorer un peu, qui va passer, et je pense qu'il va passer voir nos transmissions, nos directs, nos vidéos, tout ce qu'il y a autour du concert, car on ne diffuse pas les concerts comme ça, on les entoure, comme d'ailleurs dans la vie de la salle physique, d'avant-concert, d'interviews de chefs d'orchestre, de solistes. On essaye de garder une sorte de d'action culturelle autour de nos concerts. Et nous espérons d'ailleurs que certains spectateurs de nos productions digitales viendront nous rejoindre ensuite pour l'expérience qui est quand même assez extraordinaire du spectacle en direct.
On verra d'autres éléments d'innovation, mais c'est vrai que vous êtes devenu un véritable producteur audiovisuel, oui, au sens premier du terme.
Oui, et on n'a pas la qualification, bien sûr, on n'a pas. Mais nous sommes un producteur.
Et ça, c'est quand même un virement dans un orchestre qui n'est pas si évident que ça, parce que chaîne YouTube, si on parle à un millénial, effectivement, lui va trouver ça normal d'avoir une chaîne YouTube et de diffuser sur une chaîne YouTube, mais pour un orchestre, c'est quand même une vision que vous avez mise en place il y a quelques années et qui vous distingue de certains de vos confrères.
Je dirais, avant, c'était l'apanage des orchestres de radio. L'orchestre de la radio, les deux orchestres de Radio France sont présents sur les ondes. C'est leur première mission, c'est de produire des concerts qui sont ensuite diffusés. D'ailleurs, ils le diffusent aussi en audiovisuel aussi de plus en plus. Alors, nous, oui, c'est nouveau. Ce qui est pas nouveau, c'est toute l'activité audiovisuelle autour d'enregistrements commerciaux, de disques. Depuis que nous avons ce studio, depuis mon arrivée, nous avons enregistré 18 disques, 18 albums. Donc c'est une activité très, très soutenue. Et puis, grâce à ce studio, nous étions déjà présents sur des chaînes thématiques en audiovisuel, cette fois, comme Mezzo, comme Arte Concert ou d'autres chaînes. Alors ça accélère, évidemment, cette crise, accélère cette tendance, ce goût que nous avions. Et aussi ce choix stratégique que nous avons fait il y a maintenant 5 ans, de nous équiper pour être autonomes dans notre politique audiovisuelle.
Alors, effectivement, ce studio numérique, c'est un élément quand même fort. C'est un élément qui vous distingue. C'est un investissement assez, assez marquant. La vision, vous venez de nous la partager. Concrètement, c'est quoi ce studio numérique? Et en quoi il est particulièrement innovant?
Alors, matériellement, le studio, c'est 60 micros, une table de mixage avec tous les logiciels de audio. Puis, nous avons investi dans 5 caméras automatiques et une régie automatique également, qui nous permet, comme je disais, de pouvoir produire nous-mêmes nos propres contenus audiovisuel, que ce soit les concerts, mais ça, tout ce qui est autour des concerts aussi, tout ce qui est culturel, je dirais. Alors ensuite, qu'est-ce que ça nous... Et c'est un studio qui est entièrement numérique. Ça veut dire que depuis la capsule du micro, qui elle est analogique, bien sûr, qui vibre, tout le à partir de cette prise de vibration du micro, toute la chaîne du son, la production du son et de l'enregistrement est numérique, ce qui nous permet d'avoir d'abord un son d'une très grande pureté et aucune déperdition dans le circuit de l'enregistrement. Ça nous permet également d'être très attractifs pour les maisons de disques, puisqu'elles n'ont qu'à venir se mettre derrière les manettes, tout est là. Ça nous permet d'être attractifs pour les chaînes ou les producteurs audiovisuels qui, eux aussi, s'appuient sur nos 5 caméras, rajoutent quelques caméras avec opérateurs dans la salle, mais c'est du complément. Toute la base est déjà là. Et puis, c'est un investissement qui nous permet d'être à l'aise financièrement, puisque maintenant le studio est amorti et que nous n'avons pas à louer à chaque fois tout un matériel, ce qui est assez coûteux.
Est-ce qu'on parle chez vous de binaural, de 5 points, de son immersif?
Oui. On parle évidemment de tout ça. D'ailleurs, on est en liaison très directe avec les équipes de Radio France qui sont intéressées aussi par notre équipement. On échange et nous avons, par exemple, créé deux installations sonores. Une qui s'appelle Inferno et qui était à partir de l'enregistrement que nous avons fait multicanal d'une pièce d'un compositeur contemporain qui s'appelle Yann Robin et qui était une pièce spatialisée. À partir de là, nous avons créé une installation sonore. Et une deuxième installation sonore, avec des techniciens et des artistes de Radio France, nous avons créé, qui s'appelle Blow Up, et qui explore toutes les résonances et les sonorités des différents la d'un piano de concert. Donc c'est une sorte d'expérience d'immersion sonore pour les spectateurs, les auditeurs dans ce cas de figure, qui sont dans une sorte de cabine et qui vont voyager au travers des résonances des cordes d'un piano.
Parce qu'effectivement, Audito 2.0, l'orchestre qui utilise une seconde salle de concert, la question du son, la question de l'immersion, du sentiment d'immersion, c'est, j'imagine, une question qui vous taraude.
Oui, c'est crucial, effectivement. Ça fait partie des pistes de développement, mais sans que ça devienne un gadget. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit vraiment au service de l'écoute, que ce soit au service également de la création, puisque notre studio, j'en ai pas encore parlé, mais nous permet aux compositeurs avec lesquels nous travaillons de créer des sons, de créer surtout de la spatialisation. Et ça, c'était, je dois dire, c'est un peu mon obsession. J'aime beaucoup la spatialisation que permet ce studio numérique. Il nous permet, alors, la spatialisation et l'enregistrement de bandes sonores mêlées à l'orchestre symphonique, c'est pas nouveau, hein, ça remonte dans les années 50, hein, Pierre Schaeffer, etc., etc. Mais disons que pour les compositeurs d'aujourd'hui, c'est effectivement un gros avantage de pouvoir travailler chez nous.
Alors, l'innovation, là, on franchit un pas, on revient quand même au présentiel, l'orchestre est dans la salle, les spectateurs sont dans la salle, mais en février 2019, je crois, vous êtes amusé, vous me confirmez si c'était du plaisir, livrer une expérience qui s'appelait Smartphony, où là, c'est le smartphone qui devient le... Alors, est-ce que je dois dire le 101e musicien? Comment on doit expliquer à nos auditeurs ce qu'était Smartphony et pourquoi vous avez fait ça?
Smartphony, c'était une idée d'Alexandre Bloch, qui est notre chef d'orchestre permanent, directeur musical. Et c'est, comme on dit avec des guillemets, c'est un geek total. Il est né avec ça, il a 35 ans. Enfin bon. Donc, il avait très envie d'une application qui permettent d'interagir, une interaction entre le public et lui-même et les musiciens. Mais que ce ne soit pas de nouveau un gadget, mais que ce soit au service d'une meilleure compréhension de l'œuvre qui allait être présentée et de ce que c'est qu'un orchestre symphonique. Donc cette application, elle permettait, puis on verra si on peut, pour l'instant, on l'a mis un peu de côté parce qu'on a d'autres priorités, mais je pense qu'on va continuer à y travailler. Elle permet d'interagir par des jeux, on peut agir sur le tempo, par exemple, le spectateur, avec son smartphone, en tapant sur son smartphone. Interagir sur le tempo, sur les dynamiques, sonore, sur les couleurs, sur les choix des morceaux qui sont interprétés, sur jouer avec un quiz, jouer avec un guitar hero. Vous voyez, il y a toutes sortes d'interactions, mais ce qu'on avait vraiment en tête, c'est que ce soit comme un serious game, c'est-à-dire on est là, on joue et en même temps, on apprend quelque chose, c'est une introduction à l'orchestre. Et après, le plus important, c'est qu'à un moment, on dit « Bon, ben maintenant, vous pouvez éteindre vos portables, vous éteignez vos smartphones et vous écoutez, mais vous écoutez avec l'ouverture d'esprit qu'a permis l'interaction avant l'interprétation de l'œuvre acoustique et sans moyen numérique.
Donc c'est un outil technologique qui permet de faire de la médiation culturelle d'une autre manière.
Oui, c'est bien résumé, effectivement.
Ok, et donc, a priori, vous ressortirez plus tard Smartphony parce que vous pensez que l'expérience a été probante.
L'expérience a été très, très probante, mais on a eu quand même, il ne faut pas le cacher, quelques difficultés technologiques parce que ce n'est pas notre spécialité. Nous ne sommes pas des ingénieurs en application numérique. Et par conséquent, il faut passer par des startups ou des boîtes qui maîtrisent ça et ça coûte très cher. Et pour l'instant, on est un petit peu bloqué par ça parce qu'il faut qu'on trouve un gros mécénat.
Moi, ça me pose deux questions. Déjà, comment vos confrères ont-ils regardé cette expérience? Et puis deuxièmement, il faut quand même une sacrée résilience de la part des musiciens. Quand on voit, et on mettra le lien vers la vidéo, quand on voit le tempo qui s'accélère parce que les spectateurs dans la salle s'amusent avec l'orchestre.
Bon, alors les musiciens s'amusent aussi, et il ne faut pas oublier que ce sont tous des grands spécialistes de leur instrument et tous des virtuoses, donc ils sont plutôt amusés avec ça. Ça ne pose pas de problème particulier pour eux, plus pour le chef qui doit effectivement s'adapter à ce que demande la salle, en fait, ce que demande la moyenne des tempi qui sont envoyés par le smartphone et qu'on voit s'afficher à l'écran. D'ailleurs, ça, c'est un petit côté soirée électorale ou maintenant soirée Covid, hein, avec toutes les statistiques, tout ce qu'on peut montrer à l'écran. Donc, on voyait un métronome qui jouait de plus en plus vite suivant ce que demandait le public, ou bien des nuances que demandait le public, etc. Voilà, c'est plus une adaptation du chef d'orchestre et puis aussi des équipes, parce que ça demande à être très 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 soutenu par des techniciens, par la communication. Ça demande un changement d'état d'esprit, mais ça c'était plutôt sympa. Oui.
L'introduction du smartphone comme un nouvel instrument dans l'orchestre, ça correspond aussi, effectivement, vous l'avez dit, à un goût d'Alexandre Bloch. Et ça m'amène à un autre sujet qui est celui de la pop culture. C'est-à-dire que ce côté geek, cette ouverture de l'orchestre, elle est aussi, cette innovation, elle est aussi liée au fait que vous allez vous frotter à d'autres formes culturelles, que vous osez des fois des grands mariages assez étonnants. Alors il y en a un évidemment qui nous tient particulièrement à cœur, c'est que vous avez votre route à rencontrer celle d'Ankama, producteur d'entertainment régional très important, et que vous avez collaboré à deux reprises avec ces autres geeks.
Bah oui. Mais d'abord, au-delà de l'aspect geek, c'est une industrie très importante de notre territoire et du développement de notre territoire. Donc, l'Orchestre National de Lille est très ouvert aux collaborations avec les structures de champs culturels les plus larges possibles. On l'a déjà fait, on l'a toujours fait. On ne fait que s'adapter et continuer à le faire. Et là, c'était avec Ankama, c'était absolument extraordinaire. Quand on s'est rencontrés et qu'on s'est dit, bon, ben, peut-être que nous, on peut enregistrer la musique de leur premier film. Dofus, et donc on a enregistré cette musique pour eux, avec eux, comme une véritable création de musique de film. Et ça, c'était important pour nous aussi, parce que c'est aussi une question d'image et de parti pris. Voilà, nous sommes un orchestre du territoire, bien sûr, avec un rayonnement national, international, mais on veut être aussi facteur de collaboration et de lien entre les différents, dans tous les domaines du secteur culturel, voire économique, bien sûr.
Alors, aujourd'hui, sur la table, j'imagine qu'il y a des réflexions, soit sur des technologies, soit sur de nouveaux types de collaboration. J'ai entendu parler de réalité virtuelle. Est-ce qu'on peut...
Oui. On est en train de travailler aussi avec une start-up parisienne, pour le coup, sur un logiciel de simulation de direction d'orchestre. Bon, donc Alexandre est bien sûr en première ligne, et l'orchestre va enregistrer des extraits symphoniques pour cette simulation d'orchestre, qui est assez extraordinaire. Hein. Vous avez l'impression vraiment d'interagir avec des musiciens virtuels.
Ça, c'est la technologie de la réalité virtuelle qui permet de se mettre dans la peau du chef d'orchestre.
Chef. Alors, moi, ça m'intéresse non pas, de nouveau, pour le côté gadget, parce que ça, c'est... m'intéresse pas du tout, mais en revanche, de ce que les joueurs vont pouvoir apprendre de l'orchestre symphonique et du goût qu'ils vont prendre pour la musique symphonique. Parce que tout ça, pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? Pour que les gens puissent, à un moment, venir dans la salle et être touchés par la musique symphonique en direct. Parce que ça, c'est quand même quelque chose d'indicible. C'est comme construire une grande cathédrale émotionnelle. Et ça, vous ne le faites pas de façon... Vous pouvez le faire de façon virtuelle, mais ça reste assez froid. Vous le faites dans l'émotion partagée du moment, tous ensemble, dans une salle autour d'un grand orchestre.
Ce prisme 4.0, est visiblement vraiment un outil de médiation culturelle avant tout.
Oui, de médiation et d'accessibilité, et également de diffusion. Alors, je vous ai dit le goût. Moi, j'adore l'exercice de l'enregistrement, l'exercice de transformer ce qu'on fait actuellement, hein, transformer notre scène en plateau de tournage. C'est en plus très amusant, je trouve, hein, très, très intéressant. Mais c'est effectivement de la médiation, mais c'est surtout essayer de diffuser le plus largement possible aussi.
Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les mois à venir?
Qu'on puisse retrouver le public dans pas trop longtemps, parce que en face de tout ce qu'on a dit... Il y a le modèle économique aussi, hein. Il n'y a pas seulement l'émotion partagée. Cette émotion, elle n'a pas de prix, mais elle a un coût quand même. Donc, si on n'a pas de public, eh bien, on perd quand même toutes les ressources qui nous permettent justement de produire des concerts. Et puis, nous souhaiter de continuer à développer cette salle 2.0, cet audito 2.0, parce que cette crise n'est qu'un accélérateur des tendances que nous avions déjà indiquées dans les années précédentes. Et je crois que le nouveau siècle plus l'audito 2.0, ça peut être une force extraordinaire de diffusion et de rendre le plus accessible possible ces chefs-d'œuvre de l'esprit humain qu'est la musique symphonique.
Je finis sur une note personnelle. J'ai croisé dans les couloirs d'un salon parisien qui s'appelle Virtuality, dédié à la réalité virtuelle. J'avais croisé Alexandre Bloch,
bien sûr,
effectivement, qui venait sourcer de l'innovation autour de cette technologie immersive. Oui. Il est dur à suivre comme geek. Vous devez freiner des fois.
Non, on ne freine pas. On donne des priorités au projet et puis on fait tout, en tout cas je fais tout pour pouvoir rendre possible aussi certains projets qu'il apporte. Mais on n'a pas à se forcer véritablement parce qu'on est sur la même longueur d'onde et on partage tous cette appétence, cette passion, puis surtout cette stratégie que le numérique et les nouvelles technologies peuvent être au service de notre art.
Merci beaucoup François.
Merci.
Et petite précision, vous avez fait toute cette discussion debout parce que vous souffrez quelque peu du dos. Et donc bravo pour cette presque demi-heure dans ces conditions-là, avec le respect des règles sanitaires.
Ah oui, total.
Il va de soi. Merci beaucoup et à très vite.
Merci.